chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous arrivons au CD numéro 4. Nous sommes le 8 juin 2019. Et je vous fais donc ce CD, cette étude très très intéressante et très sérieuse. Et le titre, vous le savez, c'est « Que savons-nous concernant de Jésus-Christ ?» Que savons-nous concernant de la vie de Jésus-Christ ? Et notre thème pour terminer cette série, cette petite série, c'est la perspective éternelle du chrétien. Nous avons vu au commencement de cette méditation que la vie chrétienne n'est pas une chose qui aurait simplement commencé dans cette ère particulière, l'ère chrétienne, comme on l'appelle, mais qu'elle remonte jusque dans l'éternité passée. Nous avons vu qu'elle a été conçue par Dieu dans ses conseils éternels et le Nouveau Testament insiste beaucoup sur cela et que cette pensée et ce dessein éternel se poursuivent dans cette dispensation présente, actuelle, de manière très définie et particulière. Il nous faut donc voir maintenant que l'éternité future embrasse aussi cette dispensation. L'éternité future gouverne le présent, elle dirige et explique le présent. Dieu agit non seulement en vue de l'avenir, l'aspect futur des activités divines, ça là n'est nullement, comment est-ce qu'il faudrait dire ça, seulement un aspect des choses, pas du tout. Dieu, pour ainsi dire, agit en retournant en arrière. De son côté, Dieu agit toujours comme tourné en arrière, je le répète, et cela pour accomplir sa pensée toute entière qui est conçue dans l'éternité passée. Déjà dans l'éternité passée, tout a été préparé. Il nous conduit en avant maintenant, mais à cet autre point de vue, il nous ramène souvent de nouveau en arrière. C'est difficile peut-être à comprendre pour certains. Et c'est ainsi que nous arrivons à cette question de la perspective éternelle du chrétien. Il nous faut donc réaliser, non pas qu'il soit difficile de le faire, et qu'il y a dans le Nouveau Testament un très vaste élément de perspective, c'est-à-dire que le Nouveau Testament regarde toujours en avant. Et dans le Nouveau Testament, tout est vraiment dominé par les âges à venir. La conception de Dieu est une conception éternelle, et oui, et non une simple conception du temps. Elle est quelque chose de beaucoup, beaucoup trop grand pour être réalisée pleinement dans une simple période de temps. Elle, donc, ne peut donc certainement pas être réalisée durant la vie d'un homme, jamais. Elle dépasse le temps, tout simplement. Elle est d'éternité en éternité. Et elle demande ce qui est plus vaste que le temps pour être réalisé. Et cela explique naturellement beaucoup de choses. Cela explique la véritable nature de la vie chrétienne et du service chrétien. Un très grand, ou on peut dire, un très grand facteur dans les voies de Dieu à l'égard de son peuple et à l'égard des chrétiens que nous sommes, c'est celui de l'expérience. Et cependant, il semble souvent que ce soit précisément lorsque nous commençons à profiter, oui, on peut dire cela, à profiter de nos expériences, que tout à coup vient la fin. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes tellement peu de choses que nous sommes appelés tout à coup à quitter cette vie après un court instant sur cette terre. Court instant par rapport à l'éternité, il va sans dire. Et que toute notre longue et pleine et profonde expérience n'a pas réellement pu être exprimée. Il y a en cela quelque chose qui semble être un problème. Voyez-vous, si Dieu donne tant de valeur à l'expérience, et si lorsque nous l'avons acquise, nous ne pouvons pas l'utiliser, il semble y avoir là une contradiction. Il faut donc qu'il y ait une extension quelque part, de quelque manière, pour mettre en valeur toute cette profonde expérience que Dieu a produite avec tant de soin. Et c'est ainsi que la perspective éternelle explique les voies de Dieu à notre égard dans le chemin d'une expérience profonde et allant toujours en s'approfondissant. Donc, nous devons toujours continuer d'approfondir la Sainte Parole. Ensuite, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, oui, le travail est difficile, c'est vrai, il est dur, et les progrès sont trop lents. Et bien que nous travaillons beaucoup, et croyez-moi, je travaille beaucoup, à mon grand âge, que notre vie soit très pleine, lorsque nous aurons vécu tous les jours qui nous auront été accordés et que nous serons dépensés jusqu'à la dernière limite, qu'aurions-nous fait ? Qu'aurions-nous fait ? À quoi tout cela reviendra-t-il pour finir ? Eh bien, nous devons dire à très peu de choses. À très peu de choses. Il y a encore tellement plus à faire, et chaque génération successive, l'ouvrier chrétien ne peut que redire la même chose. Nous avançons sans jamais arriver, oui, c'est vrai, sans jamais atteindre aucune plénitude dans cette vie, parce qu'elle est trop courte. Il faut quelque chose de plus pour rendre parfaites nos vies imparfaites, et notre œuvre également imparfaite. Il y a ensuite encore un autre facteur, et qui n'est pas un moindre facteur du tout, c'est que Dieu semble se soucier davantage de l'ouvrier que nous sommes que de son œuvre, que de notre œuvre, de ce que nous faisons. Il se soucie beaucoup plus de nos personnes. Et c'est naturellement cela qui crée les perplexités de la vie et du service chrétien. Si Dieu donnait une telle importance à notre service chrétien, il ne devrait certainement pas permettre que nous en soyons mis de côté, que nous soyons mis de côté, vous l'avez compris ce que ça veut dire, spécialement à plusieurs reprises ou durant de longues périodes, et il ne devrait certainement pas permettre que nous allons mourir d'une façon prématurée, comme nous le disons dans notre langage. Donc si l'œuvre est tout, eh bien Dieu devrait nous garder en pleine vigueur durant toute notre vie, si l'œuvre représente tout. Et il devrait étendre nos jours à une pleine période, mais il ne le fait pas toujours. Il y a tant de ces précieux enfants qui ne peuvent pas être en action, qui ne peuvent pas servir de la manière dont nous pensons habituellement au service, et ceux-là même qui sont en pleine activité sont conscients, oh oui, que le réel besoin dans l'œuvre de Dieu, c'est que l'ouvrier ait une connaissance plus profonde de Dieu lui-même. Ils apprennent ainsi que Dieu est préoccupé d'eux-mêmes. Il est vraiment Dieu préoccupé de nous, oui, plus encore que de notre travail. Ça paraît peut-être bizarre, mais c'est vrai. Qu'est-ce que cela nous dit ? Eh bien, toute cette discipline, cette éducation, cette difficulté, cette épreuve à travers laquelle nous passons sous la main de Dieu, eh bien, tout cela n'aurait-il d'autre but que le jour présent? Eh bien, sûrement pas. Sûrement pas. Dieu nous prépare pour quelque chose de beaucoup plus. Il est intéressé à des hommes et des femmes, oui, à un peuple, tout autant, sinon plus, que à ce qu'ils font pour lui, à ce que nous faisons pour lui. Ça paraît peut-être incompréhensible, mais c'est vrai. Et cela ne sera naturellement jamais considéré de notre part comme une excuse à ne pas agir selon notre pleine capacité, mais tout cela nous dirige vers quelque chose de beaucoup plus. Il n'y a rien de parfait ni de complet tant que subsiste la mort. Nous nous rappelons l'argument que développe l'apôtre dans la lettre aux Hébreux touchant le sacerdoce de l'Ancien Testament. Un sacrificateur en ce temps-là, dans l'ancienne dispensation, ne pouvait amener rien à sa finalité. Pourquoi ? Mais parce qu'il allait mourir et devait remettre la succession à un autre. Et de la même manière, il n'atteignait lui-même jamais à la finalité et cela se continuait toujours. Donc l'argument de l'apôtre, c'est que à cause de la mort, rien ne pouvait arriver à la perfection. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, notre souverain sacrificateur, lui, il a fait et fait parfaitement toutes choses parce qu'il est toujours vivant éternellement. Notez Hébreux, chapitre 7, versets 23 à 25. Donc il faut quoi? Il faut une vie éternelle, la puissance d'une vie impérissable pour pouvoir atteindre la plénitude, ce qui est impossible pour nous les humains. Cela nous est donc clairement prouvé dans les Saintes Écritures, notez Hébreux chapitre 7, verset 16. Oui, l'image de l'immortalité que nous donne la Sainte Bible est infiniment merveilleuse, tellement que naturellement, dans notre ordre de choses actuelles, nous ne pouvons pas la comprendre. L'image de l'immortalité que nous donne la Sainte Bible est celle de productions nouvelles qui paraissent sans que soit nécessaire la mort de ce vieux, on peut dire la mort de ce qui est vieux. Voilà, donc notre ordre présent, actuel, c'est que toute chose nouvelle sort d'une mort précédente et la semence, les fleurs, tout doit mourir pour produire quelque chose de nouveau. On peut dire tout ce qui est nouveau peut lui ouvrir la voie. Et tel a été donc l'ordre des choses depuis que Adam est tombé, souvenez-vous. Et le cœur de cette dispensation présente, c'est la grande vérité de Jésus-Christ, le grain de blé. Nous connaissons tous ce verset, qui tombe en terre et meurt, afin que soit possible une production sur une échelle beaucoup plus vaste. Ça, c'est l'ordre de cette dispensation. Mais ce n'est pas l'ordre de l'éternité à venir. Là, l'image de l'immortalité telle qu'elle nous est donnée dans la Sainte Parole, c'est celle d'arbres qui produisent de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, de nouveaux fruits, tandis que le vieux ne meurt cependant jamais. Le fruit est amené à la perfection sans aucune mort. C'est plutôt merveilleux, n'est-ce pas? Et combien il y a d'exhortations dans la Sainte Parole qui sont à la fois un appel à notre cœur et un ordre d'être absolu pour le Seigneur. Tout le temps, les apôtres nous pressent ils nous mettent sur notre cœur le poids de ce grand impératif qui dit « avançons ». Oui, avançons. Par l'exhortation, par les avertissements, ils nous répètent constamment « avancez » et « avancez toujours ». N'ayez dans votre vie aucune place qui ne soit consumée d'amour pour Dieu. Et le point de cet appel, de cette insistance et de cet impératif, c'est l'éternité à venir. Et tout cela nous est dit à la lumière de l'au-delà. Il faut, nous disent-ils, que nous soyons tout entiers pour Dieu à cause de ce qui doit suivre, parce que ceci n'est pas la fin. C'est ce qui viendra ensuite qui sera notre justification d'avoir été tout entier pour Dieu. Donc, à l'égard de tout cela, nous sommes amenés maintenant à la chose suivante, à l'élément comparatif dans l'éternité. Il y a dans la vie chrétienne, je pense, que nous sommes d'accord tous, il y a un élément de perspective qui occupe une grande place dans le Nouveau Testament. Enlevant du Nouveau Testament cet élément de perspective, et nous verrons ce qu'il en restera dans les évangiles comme dans les épîtres, il ne nous restera pas grand-chose si nous l'en retirons, mais il est là, et il est puissant. Mais en plus de cela, il y a dans le Nouveau Testament l'élément de comparaison en relation avec l'éternité à venir. J'entends par là que les choses ne se passeront pas sur un niveau de production en masse dans l'au-delà. Il y aura des différences, oui, des différences en ce qui concerne les enfants de Dieu. Et il y aura même de grandes différences. Je vous donne une petite image, s'il vous plaît. Un Derek Prince, qui a été connu et qui a fait des choses merveilleuses pour Dieu, ou un Henry Oettinger, ils n'auront pas du tout le même statut. Donc, sans entrer dans une jalousie mesquine et humaine, la différence sera largement, très largement, en faveur de Derek Prince. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé et expliqué. Voyez-vous, c'était naturellement ce que montrait l'apôtre lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, en leur parlant des fondations et de la superstructure. Et il leur a dit, la fondation elle est posée, que tout homme prenne maintenant, garde maintenant, à la manière dont il bâtit dessus. Si quelqu'un construit là-dessus avec du bois, du foin, du chaume, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, eh bien l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Notez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. À 13. Et cela signifie que si elle est de bois, de foin ou de chaume, elle partira tout en fumée. Et l'apôtre ajoute encore ce mot si terriblement fort au verset 15. Si l'ouvrage bâti par quelqu'un est consumé, il le perdra. Et pour lui ou pour elle, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est dire, chers amis, que l'homme pourra tout juste s'en tirer, comme l'on dit, et échapper d'un cheveu à l'enfer. Mais tout le reste aura disparu. Et il était absolument évident que ce n'est pas ce que Dieu avait voulu, pas du tout. Nous avons en face de cela un passage comme celui-ci, et ainsi vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel. Notez 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 11. Alors, nous voyons que d'un côté, il est possible d'y entrer tout juste, avec notre vie toute seule, mais rien d'autre. Et de l'autre côté, d'avoir une entrée abondamment accordée dans le royaume éternel, comme un Spurgeon, comme un Finney et beaucoup d'autres. Nous le voyons donc, il y a des différences, il faut être honnête, il ne faut pas être jaloux. Il y a des différences, il y a des traits de comparaison en ce qui touche à l'avenir. Et qu'en est-il de ces passages adressés aux sept églises en Asie que nous avons vus au commencement du livre de l'Apocalypse? Eh bien, je crois que les chrétiens dans ces églises sont de véritables croyants et non seulement de simples professants. Ce ne sont pas simplement des chrétiens de nom qui vont à Noël et à Pâques à l'église. Je plaisante. Si nous admettons tout cela, eh bien, nous nous trouvons donc en face de ce fait qu'entre chrétiens et chrétiens, il y a forcément une différence. Et nous avons là quelques promesses très distinctes faites à certains chrétiens de ces églises. Il est dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, il est dit « je donnerai ». Donc la logique implique sûrement ceci, chers amis, sinon tu n'auras rien. Si tu n'es pas un vainqueur, si tu t'es pas battu, si tu n'es pas zélé, si tu n'es pas discipliné, tu ne recevras pas de ce que offre le Seigneur. Il y a donc des différences. Je ne suis pas jaloux d'un Derek Prince. Je ne suis pas jaloux d'un Daniel Guillaume Gentil. Non, pas du tout. Ils ont leur place et ils ont ce qu'ils vont mériter de recevoir. Et c'est Dieu qui donne. Heureusement que ce n'est pas nous qui décidons. Il ne s'agit pas de la perte du salut, pas du tout. Mais il y a quelque chose de plus que le simple fait d'être sauvé, c'est d'échapper, oui, d'échapper comme au travers du feu. Et ça sera pour beaucoup de chrétiens, ça sera d'autres cas, peut-être, le mien aussi, va savoir. Je ne fais aucune illusion là-dessus. Donc, mes chers amis, nous ne devons pas aller oublier notre relation avec le Seigneur pour notre vocation éternelle. Quelle est la nature de la différence ou des différences? Quelques-uns vont dire, oh, naturellement, c'est la récompense. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit de la nature de la récompense? La réponse, tout à fait clairement, est celle-ci. La récompense, elle est liée à la vocation. Elle est une question de vocation. Elle est toujours liée à la vocation. Ses serviteurs le serviront, ils verront sa face, est-il dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. C'est le service, mais sans tous les éléments pénibles qui sont maintenant si souvent associés au service. Le service que nous lui rendons sans limite, sans contrainte, sans opposition et sans souffrance. Pouvoir le servir, le Seigneur, il n'y a là sûrement pas de plus grande joie. Oui, c'est la plus grande joie qui soit que de pouvoir simplement, sans toute la tension et les limitations et les difficultés de l'œuvre telle qu'elle est maintenant, servir le Seigneur en plénitude. Nous devons donc être scellés pour servir. Or, c'est là que le Nouveau Testament met le doigt. Il y en a qui disent le doigt dessus, n'est-ce pas? c'est français. Et c'est sur l'appel, sur la vocation. Et il nous montre ensuite que c'est une question de position en relation avec le Seigneur, c'est-à-dire de position différente pour le service. Prenons une illustration de cela dans l'un des passages adressés aux églises. Il est dit dans Apocalypse chapitre 3, 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, celui ou celle qui vaincra. » Nous trouvons là deux idées. L'une est celle d'une relation très proche avec le Seigneur, c'est-à-dire une position très intime avec lui. L'autre est celle du service royal, le service du trône. Quelle est notre conception? Que signifie pour nous être assis avec lui sur son trône? Ne nous imaginons pas, chers amis, des trônes d'or ou d'ivoire, et ainsi de suite. Cela signifie simplement notre union avec le Seigneur dans l'administration de son royaume éternel. Je répète, cela signifie simplement notre union avec le Seigneur dans l'administration de son royaume éternel. La dernière image que nous avions dans le Nouveau Testament, bien qu'elle soit si pleine de symbolisme, est une incorporation de ses principes spirituels, c'est-à-dire c'est l'image de la cité. Or, cette cité est sans aucun doute l'Église. Oui, l'Église, avons-nous besoin de le prouver. La Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Notez Galates chapitre 4, verset 26. Vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, est-il dit, la Jérusalem céleste. Notez Hébreux chapitre 12, verset 22. Vous vous êtes donc approchés, ce n'est pas plus tard que nous nous approcherons, ce n'est pas dans la suite. Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, de l'Église des premiers-nés. Ainsi, cette cité qui nous est dite être la Nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, selon Apocalypse chapitre 21, verset 2, c'est l'Église. Or, comme toute ville capitale, elle est placée dans une position spéciale et particulière, et l'idée pour une telle cité, c'est qu'elle est un centre administratif. Il nous est dit que les nations marcheront à sa lumière, au verset 24 d'Apocalypse 21. Et nous le voyons, il y a au centre une place pour le gouvernement, et il y a beaucoup plus de choses qui ne sont pas au centre. Nous avons ici la position toute proche avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur, pour notre vocation éternelle dans l'administration de son royaume. Cela suffira certainement à prouver ce fait d'un élément comparatif dans l'éternité à venir. Et c'est cela le point de l'exhortation et de l'impératif, c'est la force de la persuasion. Tendons à ce qui est parfait, n'est-ce pas? C'est important. Hébreux chapitre 6, verset 1. Et avançons vers la perfection, dit la version Darby. Ne regardons pas en arrière, mais courons en avant. C'est la force de tous les avertissements. Non pas que l'on puisse perdre son salut, je le répète, mais il y a des positions. Il y a une vocation à laquelle nous sommes appelés dans l'éternité et qu'il est possible de ne pas atteindre. Je pense que c'est ce que l'apôtre Paul a vu dans ce qu'il a appelé la vocation céleste, selon Philippiens chapitre 3, verset 14. Il a vu l'apôtre Paul, quelque chose de cette vie d'autorité morale dans les siècles à venir. Or, pour Dieu, rien n'est purement officiel. Dieu n'établit jamais de simples fonctionnaires dans son royaume. Il n'y a point de politiciens dans son royaume non plus que des ecclésiastiques, des monseigneurs. Pour Dieu, je le répète, il n'y a rien qui soit simplement officiel. Non, non, non. Dieu ne désigne pas de fonctionnaires dans son Église. Le principe sur lequel Dieu se base est toujours la mesure spirituelle. Maintenant même, dans l'Église, lorsqu'elle est spirituelle, lorsqu'elle est selon sa pensée, eh bien Dieu désigne, pour porter la responsabilité, il désigne ceux qui sont des hommes et des femmes de mesure spirituelle, et non pas ceux qui seraient choisis, élus et nommés par un vote populaire. C'est le principe du Nouveau Testament, et dans le royaume, il en sera de même. Personne n'y occupera de position simplement parce qu'il ou elle aura été nommé officiellement. Pas du tout. La position de chacun lui sera donnée selon sa mesure spirituelle. Nous sommes donc exhortés, chers amis, à plusieurs reprises. Oui, il est dit, rappelez-vous, avançons vers la pleine croissance. Avançons vers la pleine croissance. La perfection est une traduction malheureuse. Il s'agit toujours de la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Il s'agit donc simplement de la place que Christ a en nous, de la mesure où il est vu en nous. Ce sera toujours de cela que dépendra notre vocation, c'est-à-dire de la place que Jésus-Christ a en chacun de nous. La pensée tout entière de Dieu, comme nous l'avons vu au commencement de ces méditations, c'est que Christ remplisse toutes choses. Et c'est cela qui explique notre discipline, notre zèle, car notre discipline, c'est notre éducation pour la vie à venir. Et la nature de notre discipline, maintenant, est précisément d'augmenter la mesure de Jésus-Christ et de diminuer la mesure du moi. Oui, nous devons diminuer, je dois diminuer le moi égoïste, le moi qui me paraît tellement important parfois, mais qui n'est rien du tout. Diminuer nous-mêmes sous tous ses aspects et de mettre de côté ce qui est de l'homme et qui occupe la place de Christ et de mettre Christ Jésus à sa place. Le seul objet du Saint-Esprit dans cette dispensation, c'est que Jésus-Christ soit tout. Son but est de donner à Christ toute la place possible. Et cela signifie, en ce qui nous concerne, autant que nous lui permettons d'en avoir. Et cela nous ramène donc naturellement à la question, sommes-nous, chers amis, bien réellement tout entier à lui, à notre Seigneur, à notre Sauveur? La mesure de notre don absolu sera la mesure de notre utilité dans les âges à venir. Cela sera gouverné par notre mesure spirituelle et par aucun autre principe. Certaines personnes nous diront « Oh, mais tout est par grâce, voyons, et vous en faites une œuvre. Or, après tout, tout est grâce. » Oui, comment peut-on réconcilier la récompense et la grâce? Alors, il nous faut chercher la place des récompenses. Mais ce n'est pas si difficile que cela, car c'est par la grâce de Dieu, le Père, que nous avons une possibilité d'être tout entier à lui. C'est uniquement par grâce que je peux être un chrétien, et que je peux avancer avec le Seigneur et que je peux servir le Seigneur, même un tout petit peu. Tout est grâce. Et si la souffrance doit nous conduire à la gloire, et que la mesure de la gloire soit mesurée à la souffrance, eh bien il faut donc toute la grâce de Dieu pour cela. L'on ne peut jamais sortir de la grâce. S'il doit y avoir un jour une récompense, si nous aimons maintenant envisager quelque chose comme une récompense qui nous serait offerte, eh bien littéralement, je vous le dis, mon cher ami, ma chère amie, lorsque nous arriverons au point où nous comprendrons et connaîtrons tout le support et toute l'endurance et toute la plénitude du Seigneur, eh bien nous tomberons sur notre face en disant « Seigneur, je ne peux accepter de récompense, car tout est par ta grâce. » Mais souvenons-nous qu'il nous est parlé de plusieurs manières de la grâce dans le Nouveau Testament. Il y a la grâce qui nous donne l'accès à la repentance, cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, selon Romains chapitre 5, verset 2. C'est une faveur de Dieu, sans aucun mérite, que nous soyons sauvés, que tu sois sauvé, que nous appartenons au Seigneur. Oui, c'est par grâce. Mais ensuite, sa grâce nous est aussi montrée comme étant une force qui va au-delà du salut initial. C'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre à l'apôtre Paul lorsque il lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma force, elle s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La grâce, c'est notre acceptation sans mérite. Mais la grâce est aussi notre force pour travailler, pour servir, mais aussi pour souffrir. De quel côté que nous regardons, eh bien tout est par grâce. Il faut donc maintenant, chers amis, nous concentrer sur ce fait qu'il y a dans le Nouveau Testament beaucoup de raisons à ce que nous soyons tout entiers pour Dieu. Il n'est pas suffisant de croire, d'accepter Jésus-Christ comme si cela était le commencement et la fin de tout, comme si désormais, eh bien, nous possédons absolument tout. Ne disons pas « Oh, ceci n'a pas une grande importance et cela ne me fera pas de mal, il n'y a rien de mauvais en ce que je fais, car j'ai le salut, même si je vais un peu à gauche, à droite, j'ai le salut, et la grâce de Dieu couvrira, soi-disant, toutes ces imperfections. Je peux bien faire ceci ou cela, et cela ne fera aucune différence. Dieu est un Dieu d'amour. » Oui, c'est ce qui est prêché partout, mais il est aussi un Dieu juste. Voyez-vous, le Nouveau Testament nous dit en fait, ne courons aucun risque. Si cela ne touche pas à la question de notre salut, il y a cependant quelque chose en vue. La Sainte Parole insiste avec force. Prends garde. Prends garde. Fais gaffe. Fais attention. Sois tout entier pour le Seigneur. Dieu ne peut être satisfait par moins que cela. Suis le Seigneur jusqu'au bout, car c'est à cela que tu es appelé. Le Seigneur n'a jamais dit, tu n'auras besoin que d'aller jusqu'ici, et je t'exaucerai pour tout le reste. Non, non, non. Dieu a toujours en vue la plénitude, et il fait toujours appel à notre volonté de lui être loyal, jusqu'à ce soir. Non, non, non. Jusqu'au bout de notre vie. Ceux qui sont le plus entièrement consacrés sont toujours ceux qui sont le plus conscients de leur dette envers le Seigneur. Et maintenant que nous approchons de la fin de notre méditation, nous en arrivons à la grande crise qui détermine absolument tout. Elle est toujours là, dans les Saintes Écritures, elle est toujours gardée en vue, une grande crise, c'est la venue du Seigneur. Et c'est là, c'est alors que tout sera déterminé. Alors même que nous ne serons plus ici-bas quand il reviendra, eh bien la Sainte Parole montre tout à fait clairement que cela ne fera aucune différence, nous serons tous là, oui, tous, toi et moi, lorsqu'il reviendra, et ceux qui seront encore vivants ne nous dévanceront pas. Nous serons donc là, tous ensemble, et nous serons ainsi tous sur un même plan. Et c'est alors que sera déterminé ce que sera l'avenir, ce que sera exactement notre place, quelle sera notre fonction. Ça, c'est un grand facteur dans l'aspect futur des choses. Oui, les Saintes Écritures gardent toujours en vue la perspective du retour du Seigneur. Et lorsque nous sommes sauvés, nous recevons une nouvelle espérance. Mais à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, nous trouvons que cette espérance devient quelque chose de très défini et de concret. Elle est appelée dans le Nouveau Testament l'espérance. Et l'espérance, elle est liée à la venue du Seigneur. Et c'est ainsi que tous les appels et tous les avertissements et toutes les exhortations se concentrent sur ce fait. Le Seigneur revient et à son retour, tout sera décidé et tout sera établi. C'est à ce moment-là que notre éternité future sera fixée. Nous nous souvenons de tout cet appel qui, à la lumière de son retour, nous exhorte à veiller, à avoir nos lampes allumées, être pleinement occupé de lui, attendre toujours en avant jusqu'à ce qu'il vienne. Et de ces sérieux avertissements qui nous montrent que sans cela, eh bien quelque chose de grave pourrait nous arriver, quelque chose de tragique. Nous ne faisons pas de ceci un système de doctrine, pas du tout, pour le cristalliser en une forme d'enseignement, mais ce sont là des faits, de purs et simples faits. Car au retour du Seigneur, de grandes décisions seront prises. Et si nous ne tendons pas résolument en avant, il nous arrivera quelque chose de pas très sympathique. La Sainte Parole nous le montre très clairement et de plusieurs manières. Il y aura pour nous quelque chose de grave. Je l'exprime ainsi. Je veux dire qu'il y aura quelque chose de différent de ce que le Seigneur aurait voulu et de ce qui aurait pu être pour nous. Nous faisons ainsi entrer l'éternité future directement dans le présent. Et nous disons quel est ce motif immense. Elle donne une raison puissante à la vie chrétienne. Oh oui, la vie future, notre arrivée dans les cieux, ou quelle que soit la manière dont nous en parlons, la vie future, ce n'est pas simplement quelque chose de très très loin, qui ne soit qu'objectif et détaché. Un jour que nous espérons, en attendant que vienne ce jour lointain, eh bien nous devons travailler. Mon cher ami, ma chère amie, ce jour est ici, dès maintenant, avec toutes ses implications. Il y a peu d'espoir pour nous d'aller au ciel si le ciel n'est pas déjà venu à nous. Notre place et notre vocation future, quoique pas notre salut, dépendront très très largement en ce jour-là de la place que Jésus-Christ aura eue en nous dans cette vie ici-bas maintenant. Et tout cela nous explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Cela explique par exemple pourquoi le Seigneur permet, très souvent, en un temps très court, beaucoup de souffrances, beaucoup d'afflictions. J'étais au moins 5 fois entre la vie et la mort, mais c'était le plus souvent par ma propre faute, par des écarts que j'ai faits, par la désobéissance que j'ai faite. C'était pas du tout la faute au Seigneur, c'était uniquement ma faute, ma négligence, mon moi qui voulait être sur le trône, qui a produit une mesure par la suite merveilleuse de Jésus-Christ en nous. Voyez-vous, l'on peut voir la croissance en grâce, l'on discerne la patience, on discerne l'endurance, la bonté, l'amour de Christ qui va paraître dans cet enfant de Dieu éprouvé. C'est la préparation pour la grâce, c'est la préparation pour le service. Or, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées au retour de Jésus-Christ à un point de vue simplement prophétique, en ce qui concerne les faits et les événements de ce monde et ainsi de suite. Et il y a si peu de chrétiens qui soient conscients du fait que selon le Nouveau Testament, la venue du Seigneur doit toujours influencer notre état spirituel. Quiconque a cette espérance, non pas celui qui a cette interprétation prophétique du retour, mais quiconque a cette espérance se purifie lui-même, nous est-il dit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Qu'il se prépare, qu'il veille à ce que l'état de son cœur soit bien en ordre, de même que sa position. Cela est important, et cela aura une importance immense. Il nous faut donc ouvrir toute grande la porte de nos vies chrétiennes, l'ouvrir à cette vie beaucoup plus grande qui est devant nous. La plus longue de nos vies ici-bas, elle est très brève. Croyez-vous que je ne le sais pas, à 92 ans, il me semble que c'est parti comme en 48 heures. Et j'ai loupé beaucoup de choses. Si c'était à refaire, je ferais tout autrement. Vraiment, je peux vous le dire sincèrement, mais aussi tristement, parce que c'est vrai. Elle n'est que le commencement de notre vie. Mais en ce jour, eh bien, toutes ces significations ressortiront en plénitude. Entendons-nous bien et entendons l'appel que vous avez reçu. L'appel de la vie chrétienne, comme nous l'avons dit, c'est, chers amis, c'est une chose formidable, même c'est une chose immense. Nous sommes appelés, vous et moi, d'un appel éternel, à une vocation éternelle. Ici-bas, nous sommes simplement amenés en relation avec le Seigneur pour être ensuite formés par le Seigneur. Il nous est permis de servir le Seigneur, mais dans notre service même, nous sommes à l'école. Nous apprenons plutôt que de toute autre chose. Ne pensons-nous pas qu'ils doivent en être ainsi? Non pas simplement que nous fassions mille et une choses, mais que nous apprenions profondément et que nous apprenions à l'école de l'expérience. Et tout cela est lié à l'appel d'en haut et à la grande vocation dans l'au-delà. Que le Seigneur pousse nos cœurs à être tout entier pour lui, à ne courir aucun risque, à ne rien laisser au hasard, mais comme son serviteur Paul a dit souvent, le prix, le but le plus plein, cela, c'est cela que notre Seigneur a toujours voulu pour nous, pour vous comme pour moi. Eh bien maintenant, prions ensemble. Seigneur, je crois en Jésus-Christ. Je crois à la bonne nouvelle de la croix. Merci d'être venu dans ma vie. Je t'ai accepté aujourd'hui et j'accepte ta justice. J'ai reçu ton grand amour, de miséricorde et de grâce. Je l'ai accepté comme une personne en moi. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau, d'en haut, avec la vie divine de Jésus. Je désire avoir les yeux continuellement tournés vers la croix et de louer Dieu, le Père, de ce que je suis par sa grâce et par son amour crucifié avec Jésus-Christ. Si nous sommes infidèles, il, le Seigneur, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et je vous mets un peu de musique d'autrefois, il y a plus de 50 ans. Essayons de voir si ça fonctionne toujours.
Like us, he met people where they were, and one by one, he changed them.
Bethlehem, he was born there. I believe, Galilee, Jesus walked there. I believe, Bethlehem. My Savior prayed there on Calvary. He died alone, but the tomb Jesus left there.
Living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Canada, Martha and Merla, who will sing to us. And their first number tonight is I Will Sing.
Sing of the mercy of Allah forever. Sing, la 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 la